Voilà. Bonjour, frères et sœurs. Content de vous retrouver pour, comme nous le savons, c'est le dernier dimanche de l'année. Ce mercredi, nous avons étudié dans ce texte de l'Apocalypse, au chapitre 19, nous avons vu les 10 premiers versets. Et c'est un texte qui parle beaucoup de la louange dans le ciel et qui souligne aussi une vérité concernant justement l'Église et les noces de l'agneau. J'aimerais juste relire ou lire avec vous, j'allais dire relire, ceux qui étaient là mercredi, ils l'ont lu. Mais donc, lire avec vous ce texte d'Apocalypse chapitre 19 et lire les 9 premiers versets. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1, il est dit: Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix d'une forte... comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant: Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort coup de tonnerre disant: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, des saints. L'ange me dit: Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Donc, le verset 7 à 8, il est donc dit de se réjouir. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'Église de Jésus-Christ doit se préparer pour ce moment, les noces de l'agneau. Et pour tout enfant de Dieu, comme je le faisais remarquer donc ce mercredi, cela devait être la chose qui occupe le plus notre pensée. Alors, est-ce le cas? Nous préparer pour les noces de l'agneau. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment nous y préparer. Et rappeler, comme je le disais mercredi, que du temps de Jésus, lorsque un jeune homme voulait se marier avec une jeune femme, ce jeune homme et son père, ils allaient dans la famille de la jeune femme pour voir avec les parents quelle dot qu'il faudrait que ce jeune homme donne pour après avoir cette épouse. Et une fois que les parents et les deux familles se sont mis d'accord, j'expliquais donc que le jeune homme retournait chez son père pour préparer sa future demeure. Il partait et la jeune femme, elle était donc dans l'attente du retour de son fiancé. Et en attendant, elle préparait son trousseau et se préparait pour cette vie future. Et après un certain temps, donc la jeune femme ne savait pas quand est-ce que son fiancé allait donc revenir. Mais elle était dans cette attente. Et donc après un certain temps, le fiancé revenait et repartait avec donc sa fiancée pour retourner dans la maison du père pour célébrer les noces. Et après peut-être 7 jours de célébration, il revenait et l'épouse était présentée. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus dit donc à ses disciples qu'il va leur préparer une place et il reviendra les chercher pour les prendre avec lui. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, a dit que lui par qui le Seigneur, il a été l'instrument par lequel le Seigneur a permis aux Corinthiens d'entendre l'évangile, cette bonne nouvelle. Et il leur dit que « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et toujours dans la défense de son titre d'apôtre, il disait aux Corinthiens que même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc l'apôtre Paul se voyait un peu dans cette image comme étant donc celui par qui Dieu a amené ces hommes et ces femmes à Christ, comme un peu leur père spirituel. Et l'église de Corinthe était là vue comme il offrait donc l'église de Corinthe à Christ comme cette fiancée. Oui, l'église est comparée à l'épouse. Et de la même manière que dans l'Ancien Testament, Israël était présenté comme l'épouse de Dieu, le Père, et dans le Nouveau, c'est l'église qui est présentée comme l'épouse de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a rendu ce témoignage en Jean chapitre 3, versets 29 à 30, quand il dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Il dit « Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Donc Jean-Baptiste dit Jésus, c'est lui l'époux. Lui, il n'est que l'ami de l'époux. Et il faut qu'il croisse Jésus et que lui, il diminue. Et l'apôtre Paul exhorte les maris et les épouses, justement dans Éphésiens chapitre 5, versets 23 à 32, à calquer leur relation mutuelle à celle qui existe entre Christ et l'Église. Alors, je disais que lorsqu'il y avait le désir donc du mariage, il y avait donc ces étapes. Je veux dire 3 étapes. La première étape où le fiancé vient pour voir la famille de la jeune femme et voir avec elle le paiement de la dot. La deuxième étape où il y a ce temps de préparation, où donc le fiancé repart chez son père, et la fiancée qui est là dans l'attente et qui se prépare pour le retour de son fiancé. Et puis, cette troisième étape, qui est cette réunion des noces, comme cela a été dit. Alors, la première étape, le paiement de la dot, et pour cela, il fallait que le fiancé aille ou vienne dans la maison de la jeune femme pour voir ses parents. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a quitté la maison du Père et il est venu sur terre et il a donné sa vie, il dit, en rançon pour beaucoup. Et le prix qu'il a payé, c'est cette dot pour nous racheter. Et donc, cette première chose, bon, lorsqu'on parle de Noël, on se rappelle de la venue de Jésus-Christ sur terre. Alors c'est ça, Jésus qui est venu et qui a payé le prix en donnant sa vie sur la croix. Et sa propre vie, donc, est le montant, on peut dire, de la dot pour qu'il se rachète un peuple qui lui appartienne. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1. Dans Actes chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul disait aux chrétiens, aux responsables, aux anciens de l'église d'Éphèse, il leur dit, mais prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Qui s'est acquise par son propre sang. L'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est acquis l'Église par son propre sang. Et lorsque les parents se sont mis d'accord par rapport à cette dot-là, c'est décidé, c'est fini, c'est définitif. Cette jeune femme va se marier avec ce jeune homme. Voilà, c'est officiel. Et donc, nous nous fiançons à Christ en acceptant par la foi la bonne nouvelle qui nous est annoncée, en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, en croyant que s'il est venu, s'il est mort sur la croix, c'est à cause de nos péchés, et que le sacrifice à la croix est tout suffisant pour que nous puissions être pardonnés de nos iniquités. Nous croyons que par son sang, le Seigneur nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et en croyant cela, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons membres de son corps. Donc nous faisons partie de son Église, donc son épouse. Donc nous lui appartenons. Lorsqu'une personne accepte Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur, la personne reconnaît qu'elle appartient maintenant à Jésus-Christ. Et après avoir dit « Oui, je crois, oui, j'accepte », alors c'est officiel. On est fiancé à un seul époux et on lui doit une fidélité absolue. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que leur corps est le temple du Saint-Esprit et qu'ils appartiennent à Dieu car ils ont été rachetés à un grand prix. Et ça, il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que j'aimerais lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à Jésus-Christ et donc c'est officiel. Et nous attendons les noces de l'agneau et en attendant, nous devons nous y préparer. C'est là la deuxième phase. C'est le fiancé donc qui repart pour un temps indéterminé dans la demeure de son père pour préparer la demeure de sa fiancée et sa future épouse. Et dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, le Seigneur donc dit à ses disciples qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Seigneur il est en train de nous préparer cette place, cette demeure. Et donc ça fait déjà 2000 ans environ qu'il est en train de le faire. Alors il rappelle à lui ceux qui lui appartiennent par la mort. Pour nous, ça sera peut-être ça, ou peut-être qu'il reviendra avant nous prendre avec lui. Donc, il nous rappelle, lorsque la demeure de chacun est prête, il nous rappelle à lui. Et donc, il a fait la promesse de revenir pour prendre avec lui sa fiancée, ceux qui l'ont accepté comme sauveur et seigneur. Ceux qui ont reconnu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il reviendra pour les prendre avec lui. C'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, qui parle de l'enlèvement de l'Église. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, donc au son de la trompette, le Seigneur viendra et sera dans les airs. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux dans les airs pour être avec le Seigneur. Et là, en attendant ce moment, la fiancée, l'Église, les croyants, est dans l'attente du retour de son fiancé. Et en attendant donc ce retour, nous devons nous préparer et préparer activement ce trousseau. Elle se prépare pour ce jour de noces, pour la vie avec son fiancé, à son mari, son époux, et pour qu'il ne va pas s'arrêter aux noces, il y a une vie après. C'est comme là, quand on se marie, on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare, donc pendant un certain nombre d'années. Donc la préparation, c'est non seulement en vue des noces, mais c'est surtout aussi en vue de ce qu'il y a après aussi. Parce que, on va le voir, ce qu'on va faire aujourd'hui aura des conséquences pour après. Donc nous sommes dans cette phase d'attente du retour du Seigneur. Mais en attendant ce retour, l'Église est exhortée à se préparer. Dans le texte d'Apocalypse, il est précisé les noces de l'agneau. Pour rappeler que c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui a offert sa vie, qui a donné sa vie en sacrifice. C'est parce que Jésus a donné sa vie que l'Église lui appartient. Alors, il y a plusieurs obstacles, et si on réfléchit bien, il y a plusieurs obstacles qui pourraient nous faire oublier ou ne pas penser que nous sommes déjà fiancés à un seul époux, et donc pas question d'aller voir ailleurs, mais nous faire oublier que voilà, le Seigneur il doit revenir pour nous prendre avec lui. Et j'aimerais souligner quelques obstacles qui pourraient nous faire oublier cette réalité. Et lorsque nous voyons comment nous vivons au quotidien, on peut se dire, est-ce qu'on n'a pas oublié cette réalité que, en tant que chrétiens, nous attendons le retour de Jésus et que nous devons nous préparer pour ce moment. La première chose que je me soulignais, c'est le temps d'attente, qui est plus ou moins long, qui voire même très long. Ça fait 2000 ans qu'on attend le Seigneur Jésus, et il n'est toujours pas là. Alors pour certains, si ça fait 10 ans que vous êtes converti, vous dites ça fait 10 ans que j'attends Jésus, mais il n'est toujours pas là. Il y a certains, ça fait déjà plus de 50 ans, voilà. Ce temps d'attente qui est long peut nous faire penser que Jésus ne va pas revenir. Ou bien, tiens, il nous a oubliés. Est-ce que le Seigneur peut nous oublier? Amen. Non, il ne peut pas nous oublier. Le Seigneur, Jésus, est celui qui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice, c'est ce qu'il est dit dans la suite du texte, dans Apocalypse 19. Il est le fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Il est la parole de Dieu. Et c'est ce que l'ange a dit à Jean, c'est la véritable parole de Dieu. Alors, est-ce que vous pensez que le Seigneur, il est parti et puis qu'il nous a oubliés? Non. Il est le Dieu fidèle et véritable. Et il est fidèle à ses promesses. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 6, il est dit qu'il est impossible que Dieu mente. Il est impossible. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit à ses disciples, avant de leur dire qu'il va partir, parce que le Seigneur leur dit qu'il va mourir, etc. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Voilà. Et donc, ce temps d'attente peut faire penser, oui, tiens, le Seigneur ne va pas revenir. Et c'est dans ça qu'on voit si la fiancée, elle est fidèle ou pas. Si on est fiancé et puis notre fiancé n'est pas là, et puis on commence à se poser des questions sur lui, et puis on va même voir ailleurs. Ça montre vraiment qu'on n'est pas digne de ce fiancé-là, à réfléchir. Et pour faire patienter sa fiancée, vous savez ce que le Seigneur a fait pour nous faire patienter? Ça. La scène. Pour nous faire patienter, pour que nous n'oublions pas qu'il est un Dieu fidèle et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a dit, voilà, j'institue la scène. Voici, vous allez prendre ce pain, vous allez prendre cette coupe en souvenir de moi. À chaque fois que vous allez prendre ce pain, vous allez prendre cette coupe, vous allez vous souvenir du prix que j'ai payé pour vous, pour vous racheter. À chaque fois que vous prenez ce pain, vous prenez cette coupe, vous allez le faire jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, on prend par habitude juste comme ça. À chaque fois qu'on le fait, on le fait avec cette pensée, avec ce rappel du Seigneur qu'il est fidèle et qu'il va revenir nous prendre avec lui. Mais en attendant, nous nous souvenons du prix qu'il a payé pour nos péchés. Autre chose, et ça j'aimerais qu'on lise Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Donc, il y a ce temps d'attente, mais il y a aussi les inquiétudes de la vie. Nous attendons le retour du Seigneur, et le danger, c'est que nous nous laissons prendre par les soucis de la vie et que nous oublions nos responsabilités. Au verset 22, Luc chapitre 12, verset 22, Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi ? Vous vêtira-t-il, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc dans ces textes, le Seigneur encourage ses disciples à ne pas s'inquiéter pour les choses de la vie, la nourriture, les vêtements. Il dit, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin, mais cherchez plutôt donc le royaume de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de lui faire confiance pour nos besoins de chaque jour. Le Seigneur, le Père, il sait ce dont nous avons besoin, mais il dit, en attendant, veillez et cherchez le royaume de Dieu. Et c'est là l'encouragement que j'aimerais partager encore avec vous pour nous préparer au retour du Seigneur et pour nous préparer pour les noces de l'agneau. Cherchons donc le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut veiller et se tenir prêt puisque nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Et après ce texte que nous avons lu, on va lire la suite où on voit dans la suite que le Seigneur encourage ses disciples à veiller et à se tenir prêt, à être fidèles dans le service qu'ils ont à accomplir. Voilà comment nous pouvons nous préparer pour les noces de l'agneau. Alors, nous devons nous préparer donc à une longue attente, mais aussi être des fidèles, des serviteurs fidèles jusqu'au bout. Continuons la lecture dans Luc chapitre 12, verset 35. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit qu'il vienne à la deuxième ou à la troisième heure, donc entre 9h du soir et 3h du matin. Voilà, il faut être prêt et veiller. Donc le maître, il part et le serviteur est là dans la maison. Il doit attendre le retour de son maître pour qu'il lui ouvre la porte et que son maître puisse rentrer. Voilà le travail du serviteur. Et pour cela, il faut qu'il doit veiller. Le maître, là, dans ce texte, il veut trouver son serviteur là en train de veiller, être prêt à l'accueillir. Et c'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Et pour cela, il faut avoir les reins, il est dit, sains et vos lampes allumées. Ça montre l'attitude aussi par rapport au travail. Avoir les reins sains et les lampes allumées. Et toute la difficulté pour ses serviteurs, donc, est de rester éveillé. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 11, dit qu'il faut veiller et être sobre. Dans ce texte de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Pour veiller, il dit que de prendre la cuirasse de la foi et de l'amour, il dit. Et il dit ainsi que le casque du salut. Veiller en ayant la cuirasse de la foi, de l'amour et le casque du salut. Donc pour rester éveillé, il est important que chacun entretienne, comme dans la parabole des 10 vierges, ait suffisamment d'huile et pour avoir toujours cette lampe allumée. Et cette lampe allumée est maintenue par justement cette cuirasse de la foi. Non seulement la foi dans le Seigneur, la foi dans sa parole, la foi dans ce qu'il dit, et il parlait aussi de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. Et donc, en attendant le retour du Seigneur, nous restons éveillés, nous gardons nos reins sains et nos lampes allumées en maintenant notre foi dans notre Seigneur, en maintenant l'amour que nous avons pour notre Dieu, l'amour que nous avons pour les frères et sœurs. Et aussi, il y parlait du casque, de l'espérance du salut. Et l'espérance du salut, c'est justement, là il parle du salut qui est à venir, ce qui est notre délivrance. Et donc Jésus-Christ qui va revenir. Donc toujours garder en tête le retour du Seigneur qui fait que ça va toujours ranimer, raviver cette flamme qui est en nous, cette lumière qui est là, qui fait que même si le temps est long, on ne se prend pas la tête pour les choses de ce monde, pour les soucis, les inquiétudes qu'on peut avoir, parce qu'on sait que Dieu, il est là avec nous et il pourvoira tous nos besoins. Et au lieu de s'inquiéter pour ces choses, on s'assure que notre foi en lui est toujours ferme, notre amour pour Dieu, notre amour pour les frères et sœurs est toujours aussi intact et nous gardons l'espérance du salut à venir. Et l'autre chose que j'aimerais donc souligner, C'est, il dit, le Seigneur dit là, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et la dernière chose, je vais lire ce texte avec vous, au verset 41. Être un serviteur, donc fidèle jusqu'au bout. Pierre lui dit, au verset 41, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, il n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà. Donc, en attendant le retour du Seigneur, je ne vais pas m'étendre dessus, il faut être fidèle dans ce que le Seigneur nous a donné à faire. Chacun pour sa part, avec ses responsabilités. Voilà. Donc, toutes ces choses vont nous aider à nous préparer pour ce moment, les noces de l'agneau. Ne pas s'inquiéter, mais veiller, entretenir sa vie spirituelle, sa foi, son amour, son espérance, mais aussi servir, accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Chacun devant Dieu sait qu'est-ce que le Seigneur attend de lui. Et il sert son Seigneur, et que lorsque le Seigneur vienne, qu'il le trouve faisant ce à quoi il a été appelé. Voilà. Que le Seigneur ne nous trouve pas oisifs, qu'il ne nous trouve pas là en train de dire ou en train de faire n'importe quoi, mais qu'il puisse nous trouver veillants. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc on veut nous remettre à sa grâce pour l'année prochaine, et que ça soit ça. Et s'il revient, que nous soyons prêts. Amen.